Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Ceci ne répond-il pas clairement à ce qu'on entend dire souvent à « Quoi bon aller en Suisse chez monsieur Zeller, ou en Amérique chez le docteur Cully, ou à Londres dans la maison de guérison de Bethzan ?» Le Seigneur n'entend-il pas les prières d'où que ce soit qu'elles partent? Oui, sans nul doute, partout où s'élève à Dieu une prière de foi vivante, elle le trouve prêt à accorder la guérison, mais l'Église a si bien négligé de croire à cette vérité, qu'il est rare à présent de trouver des chrétiens capables de prier de cette manière-là. Aussi ne peut-on remercier assez le Seigneur d'avoir inspiré à divers croyants le désir de consacrer leur vie à soutenir la cause de la guérison divine? Leurs paroles et leur foi font naître la foi dans le cœur de bien des malades qui sans leur secours n'y parviendraient jamais, et ils ne se lassent pas de dire à tous que partout le Seigneur est toujours avec nous. Que les chrétiens apprennent à ne plus négliger aucune partie de la puissance merveilleuse de leur Dieu, et partout il pourra montrer à tous qu'il est toujours l'Éternel qui guérit. Exode 15, 26. Ayons soin d'obéir à la parole de Dieu, de confesser nos péchés les uns aux autres et de prier les uns pour les autres afin d'être guéris. Jacques signale encore ici une autre condition essentielle à la prière efficace. Elle doit partir du juste, la prière fervente du juste a une grande efficace. L'Écriture nous dit que celui qui pratique la justice est juste comme Jésus est juste. 1 Jean 3, 7. Jacques lui-même était surnommé le juste à cause de sa piété et de la délicatesse de sa conscience. Qu'on soit ancien ou simple croyant, ce n'est qu'après s'être entièrement donné à Dieu et en vivant dans l'obéissance à sa volonté, qu'on peut prier avec efficace pour les autres. Jean nous le dit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, 22. C'est donc la prière de celui qui vit en communion intime avec Dieu qui a une grande efficace. C'est à celui-là que Dieu accordera l'exaucement qu'il ne saurait accorder à tel autre de ses enfants. Souvent on entend citer ces mots, la prière fervente du juste est de grande efficace, mais il est rare qu'on les prenne avec leur contexte, qu'on se souvienne que c'est tout spécialement la guérison divine qu'ils promettent. Oh ! Que le Seigneur suscite dans son Église de ces justes animés d'une foi vivante, et dont ils puissent se servir pour glorifier Jésus, comme divin guérisseur des malades. Septième jour. La prière fervente a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba pas de pluie, sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Jacques 5, 16-18. Saint Jacques savait qu'une foi qui obtient la guérison par la prière n'est pas chose naturelle, aussi ajoute-t-il encore que la prière doit être fervente. Celle-là seule sera efficace. Il s'appuie ici de l'exemple d'Élie, un homme de la même nature que nous, inférant de là que notre prière peut et doit être de la même nature que la sienne. Comment donc prier Élie? Ceci jettera pour nous quelques lumières sur ce que doit être la prière de la foi. Élie avait reçu de Dieu la promesse que la pluie allait tomber sur la face du sol, 1 Rois 18:1, et il l'avait annoncé à Achab. Fort de la promesse de Dieu, il monte sur le Carmel pour prier. 1 Rois 18:42. Jacques 5, 18. Il sait, il croit que la volonté de Dieu est d'envoyer la pluie sur la terre, et pourtant il doit prier, sinon la pluie ne viendra pas. Sa prière n'est pas une vaine formalité, c'est une puissance réelle, dont l'efficace va se faire sentir dans le ciel. Dieu veut qu'il pleuve, mais la pluie ne viendra qu'à la demande d'Élie, demande répétée avec foi et persévérance jusqu'à l'apparition du premier nuage au ciel. Pour que la volonté de Dieu ait son accomplissement, il faut que d'une part cette volonté se formule par une promesse et que d'autre part elle soit reçue et saisie par le croyant qui prie. Celui-ci doit persévérer dans la prière pour montrer à Dieu que sa foi attend une réponse et ne se lassera pas qu'elle ne l'ait reçue. Voilà comment il faut prier pour la guérison des malades, il faut s'appuyer sur la promesse de Dieu, et voir là sa volonté de guérir, le Seigneur le relèvera. Jésus lui-même nous enseigne à prier avec la foi, qui compte sur la réponse de Dieu, il nous dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous le recevez et vous le verrez s'accomplir. Traduction littérale de Marc 11, 24. Après la prière de la foi, qui reçoit d'avance ce que Dieu a promis, vient donc la prière de la persévérance, celle qui ne perd pas de vue ce qui a été demandé, jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. 1 Rois 18, 43. Il se peut qu'il y ait quelque obstacle qui retarde l'accomplissement de la promesse, que soit de la part de Dieu et de sa justice, Deutéronome 9, 18, soit de la part de Satan et de sa constante opposition au plan de Dieu, quelque chose entrave encore l'exaucement de la prière. Daniel 10, 12,13. Il se peut aussi que notre foi doive encore être purifiée. Matthieu 15, 22-28. Quoi qu'il en soit, notre foi est appelée à persévérer jusqu'à ce que vienne la réponse. Celui qui prie 6 fois avec ferveur, et qui s'en tient là lorsqu'il aurait dû prier 7 fois, se prive ainsi de voir sa prière exaucée. La persévérance dans la prière, persévérance qui affermit la foi du croyant, envers et contre tout ce qui paraîtrait s'opposer à l'exaucement, est un vrai miracle, c'est l'un des mystères impénétrables de la vie de la foi. Ceci ne nous dit-il pas que le racheté est réellement l'ami du Seigneur, un membre du corps de Christ, et que le gouvernement du monde et la diffusion des grâces divines dépendent en quelque sorte de ses prières? La prière n'est donc pas une vaine formalité? Elle est l'œuvre de l'Esprit qui intercède ici-bas en nous et par nous, et comme telle, elle est aussi efficace, aussi indispensable, que l'œuvre du Fils intercédant pour nous devant le trône de Dieu. Il pourrait sembler étrange qu'après avoir prié avec la certitude d'être exaucé et d'avoir vu là la volonté de Dieu, nous devions encore persévérer à prier. Néanmoins, il en est ainsi. À Gethsémané, Jésus a dû prier 3 fois de suite sur le Carmel, et l'y pria 7 fois, et nous, si nous croyons, sans douter, à la promesse de Dieu, nous prierons jusqu'à ce qu'il nous ait exaucé. Soit l'importun qui va frapper de nuit à la porte de son ami, soit la veuve qui allait rompre la tête du juge inique nous offre l'exemple de la persévérance à poursuivre un même but. Apprenons de la prière d'Élie à nous humilier, à reconnaître pourquoi la puissance de Dieu ne se manifeste pas davantage dans l'Église, soit pour la guérison des malades, soit pour la conversion et la sanctification. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas? Jacques 4, de quel nous enseigne aussi la patience. Dans les cas où la guérison tarde, souvenons-nous qu'il peut y avoir là des obstacles dont la persévérance à prier pourrait seule triompher. La foi qui cesse de prier ou qui se laisse ralentir dans sa ferveur ne sait pas s'approprier ce que Dieu lui avait pourtant donné. Que notre foi aux promesses de l'Écriture ne se laisse pas ébranler par des choses qui sont encore hors de notre portée. La promesse reste la même, la prière de la foi sauvera le malade. Que la prière d'Élie soutienne notre foi. Souvenons-nous que nous devons imiter ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Hébreux 6, 12. Si nous apprenons à avoir de la persévérance dans la prière, les fruits qu'elle produit seront toujours plus abondants, toujours plus évidents, et nous obtiendrons, nous aussi, comme lorsque Jésus était sur la terre, des guérisons immédiates, dont les malades donneront aussitôt gloire à Dieu. 8e jour. Jésus a porté nos maladies. Il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs, et il portera leurs iniquités. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a porté les péchés de plusieurs. Ésaïe 53, 4,11, 12, version révisée d'OSTERWLD. Connaissez-vous ce beau chapitre 53e du prophète Ésaïe, qu'on appelle souvent le 5e évangile? À la lumière de l'Esprit de Dieu, il décrit d'avance les souffrances de l'agneau de Dieu, ainsi que les grâces divines, qui devaient en résulter. Le mot porté ne pouvait manquer de se trouver dans cette prédiction. C'était en effet le mot qui devait accompagner la mention du péché, soit qu'il fût commis directement par le pécheur, soit qu'il fût transmis à un substitut. Le transgresseur, le sacrificateur et la victime expiatoire devaient tous porter le péché. De même, c'est parce que l'agneau de Dieu a porté nos péchés que l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, 6. Le péché ne se trouvait pas en lui, mais il a été mis sur lui, il s'en est chargé volontairement. Et c'est parce qu'il l'a porté et qu'en le portant il y a mis fin, qu'il a le pouvoir de nous sauver. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs, il se chargera de leurs iniquités. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a porté les iniquités de plusieurs. Ésaïe 53, 11,12. C'est donc parce que nos péchés ont été portés par Jésus-Christ que nous en sommes délivrés aussitôt que nous croyons cette vérité, par conséquent nous n'avons plus à les porter nous-mêmes. Dans ce même chapitre lit le mot porter se trouve 2 fois allié à 2 choses différentes. Non seulement il est dit que le serviteur de l'Éternel a porté les péchés, Ésaïe 53, 12, mais encore qu'il a porté nos maladies. Ésaïe 53, 4. Porter nos maladies, faisait donc partie intégrante de l'œuvre du Rédempteur, aussi bien que porter nos péchés. Quoique sans péché lui-même, il a porté nos péchés, et pour nos maladies il a fait de même. La nature humaine de Jésus ne pouvait pas être atteinte de maladie, puisqu'elle était restée sainte. Nulle part dans le récit de sa vie nous ne voyons qu'il soit question de maladie. Il participe à toutes les faiblesses de notre nature humaine, à la faim, à la soif, à la fatigue et au sommeil, parce que tout cela n'est pas la conséquence du péché, mais il n'eut pas trace de maladie. Elle était impossible pour lui, puisqu'elle est la preuve de la présence du péché et un avant-coureur de la mort. Comme il était sans péché, la maladie n'avait pas de prise sur lui et il ne pouvait mourir que de mort violente, en consentant volontairement à la mort. Ce n'est donc pas en lui, mais sur lui que nous voyons la maladie, aussi bien que le péché, c'est de sa libre volonté qu'il s'en est chargé, qu'il les a portés. En les portant et les prenant sur lui, il en a par là même triomphé, et s'est acquis le droit d'en délivrer ses enfants. Le péché avait également attaqué et ruiné l'âme et le corps. Jésus est venu sauver l'un et l'autre. Après avoir porté sur lui la maladie, aussi bien que le péché, il peut nous affranchir de l'un comme de l'autre, et pour accomplir ce double affranchissement, il n'attend qu'une chose de notre part, la foi. Aussitôt que le malade se rend compte du sens de ces mots « Jésus a porté mes péchés », il ne craint plus de dire aussi « Je n'ai donc plus à porter mes péchés, car ils ne sont plus sur moi ». De même aussitôt qu'il saisit et croit que Jésus, l'agneau de Dieu, a porté nos maladies, il ne craint pas de dire « Je n'ai plus à porter moi-même la maladie, avec le péché, Jésus a porté la conséquence du péché, la maladie, il en a fait propitiation, et m'a franchi de tous deux. J'ai été témoin de l'influence bénie, qu'eut un jour cette vérité sur une femme malade. Depuis 7 ans elle avait été presque toujours au lit. Atteinte de consomption, d'épilepsie et d'autres maux encore, elle savait par les médecins, qui la soigna qu'il n'y avait plus d'espoir de guérison pour elle. On la transporta dans l'une des réunions religieuses du Rive. Boardement, où on la coucha à moitié évanouie sur une chaise longue. Elle ne se souvint point ensuite de ce qui avait été dit autour d'elle, mais il lui semblait entendre une voix lui dire s'il a porté tes langueurs, pourquoi les porter encore toi-même? Lève-toi. Ensuite lui vint cette pensée, si je me lève et que le tombe par terre, que dira-t-on de moi? Mais la voix intérieure recommença à dire s'il a porté mes péchés, pourquoi les porterais-je encore? Au grand étonnement de tous les assistants, elle se leva donc, et quoique très faible encore, elle put s'approcher de la table. Depuis ce moment, sa guérison continua. Au bout de quelques semaines, elle avait repris bon visage, et 3 mois après, les forces lui avaient si bien été rendues, que chaque jour elle pouvait consacrer quelques heures à visiter les pauvres. Avec quelle joie et quel amour elle parlait alors de celui qui était la force de sa vie. Psaume 27, 1 Elle avait cru que Jésus avait porté ses maux aussi bien que ses péchés, et sa foi ne fut point trompée. C'est ainsi que Jésus se révèle comme un parfait sauveur à tous ceux qui veulent se confier entièrement en lui. 9e jour. Jésus guérit les malades. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, 16,17 Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les paroles du prophète Esaïe. S'il restait au lecteur quelques doutes quant à l'interprétation qui en a été donnée, qu'il veuille bien se souvenir de ce que le Saint-Esprit a fait écrire à cet égard à l'évangéliste Saint Matthieu. À propos de tous les malades guéris par Jésus, il dit expressément qu'il les guérit afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. C'est parce que Jésus s'était chargé de nos maladies, qu'il pouvait, qu'il devait les guérir. S'il ne l'avait pas fait, une partie de son œuvre de rédemption serait restée sans puissance et sans fruit. Ce n'est pas ainsi que l'on envisage généralement ce texte de la parole de Dieu. Il est reçu de ne voir dans les guérisons miraculeuses du Seigneur Jésus que la preuve de sa miséricorde ou le symbole de ses grâces spirituelles. On ne voit point là une conséquence nécessaire de la rédemption, quoique ce soit ce que la Bible nous déclare. Le corps et l'âme ont été créés pour servir ensemble d'habitation à Dieu. L'état maladif du corps est aussi bien que celui de l'âme la conséquence du péché, et c'est là ce que Jésus est venu porter, expier et vaincre. Lorsque Jésus était ici-bas, ce n'était pas en qualité de fils de Dieu qu'il guérissait les malades, mais comme le médiateur qui avait pris sur lui et porté la maladie, et ceci nous fait comprendre pourquoi Jésus a donné autant de temps à son œuvre de guérison, pourquoi aussi les évangélistes en parlent d'une manière si détaillée. Lisez par exemple ce qu'en dit Matthieu. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Matthieu 4, 23-24. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Matthieu 9, 35. Il envoya ses disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, 1. Quand les disciples de Jean-Baptiste vinrent demander à Jésus s'il était le Messie, il leur répondit: pour le leur prouver, les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Matthieu 11, 5. Après la guérison de la main sèche le jour du sabbat et l'opposition des pharisiens qui cherchaient le moyen de le faire mourir, nous lisons qu'une grande foule le suivit et qu'il guérit tous les malades. Matthieu 12, 15. Lorsque plus tard la multitude l'avait suivi dans un lieu désert, il est dit: quand il sortit, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 14, 14. Plus loin encore, on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Matthieu 14, 35-36. Il est dit aussi des malades qui étaient parmi la foule et il les guérit, et Matthieu ajoute: en sorte que la foule était dans l'admiration et glorifiait le Dieu d'Israël. Matthieu 15, 30-31. Enfin, vers les confins de la Judée, une grande foule le suivit, et là il guérit les malades. Matthieu 19, 2. Ajoutons à ces divers textes ce qui nous donne en détail le récit des guérisons opérées par Jésus, et demandons-nous si ces guérisons nous offrent seulement la preuve de sa puissance pendant son séjour sur la terre, ou si elles ne sont pas bien plutôt le résultat indubitable et constant de son œuvre de miséricorde et d'amour, la manifestation de sa puissance de rédemption qui soustrait le corps et l'âme à la domination du péché. Oui, c'était bien là le but de Dieu. Si donc Jésus a porté nos langueurs, parce que c'est là une partie intégrante de la rédemption, s'il a guéri les malades, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Esaïe, et si son cœur de sauveur est toujours plein de miséricorde et d'amour, nous pouvons croire avec certitude qu'aujourd'hui encore la volonté de Jésus est de guérir les malades en réponse à la prière de la foi. Dixième jour, l'Éternel qui le guérit. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Exode 15,26. Souvent nous avons lu ces mots, mais sans oser les prendre pour nous, sans nous attendre à ce que le Seigneur les accomplit à notre égard. Nous avons vu là que le peuple de Dieu devait être exempt des maux infligés aux Égyptiens, et nous avons cru que cette promesse n'avait de valeur que pour l'ancienne alliance, tandis que nous qui vivons dans l'économie du Saint-Esprit, nous ne pouvions prétendre à être préservés ou guéris de la maladie par l'intervention directe du Seigneur. Cependant, comme nous étions obligés de reconnaître la supériorité de la nouvelle alliance, nous en étions venus à nous dire dans notre ignorance que souvent la maladie amène de grandes bénédictions, et que par conséquent Dieu avait bien fait de retirer ce qu'il avait promis autrefois, de ne plus être pour nous ce qu'il avait été pour l'Israël, l'Éternel qui te guérit. Mais voici qu'aujourd'hui l'Église se réveille et reconnaît son erreur. Elle voit que sous la nouvelle alliance aussi, le Seigneur Jésus s'est acquis le titre de guérisseur, par toutes ces guérisons miraculeuses. Elle remarque également qu'en chargeant son Église de prêcher l'Évangile à toute créature, il lui a promis d'être avec elle jusqu'à la fin du monde, et que comme preuve de sa présence, ses disciples auraient le pouvoir d'imposer les mains aux malades et de les guérir. Marc 16, 15-18. Elle remarque encore que le jour de la Pentecôte, la diffusion merveilleuse du Saint-Esprit fut accompagnée de guérisons miraculeuses, preuve évidente des bienfaits apportés par la vertu d'en haut. Acte 3, 7, 5, 15, 9, 40. Rien dans la Bible ne lui fait croire que la promesse faite à Israël ait été rétractée dès lors, et de la bouche de Saint Jacques, elle entend cette promesse nouvelle: la prière de la foi sauvera ou guérira le malade. Jacques 5, 14. Elle sait que de tout temps c'est l'incrédulité qui a mis des bornes au sein d'Israël. Psaume 78, 41. Version d'OSTERWLD. Et elle se demande si ce n'est pas encore aujourd'hui l'incrédulité qui arrête cette manifestation de la puissance de Dieu. Impossible d'en douter? Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas sa parole qu'il faut accuser ici, c'est notre incrédulité seule qui arrête la puissance miraculeuse du Seigneur, qui l'empêche de guérir comme au temps passé.